Très bon sabbat à vous. Le titre aujourd'hui de mon sermon, Sept buts de l'Église de Dieu. Sa raison d'être dans le fond, ses responsabilités, qui sont les nôtres aussi, parce qu'on a été appelé à cette Église-là pour accomplir une œuvre. La raison de notre appel, c'est de former le corps du Christ, cette petite équipe en préparation. Ce que la Bible appelle le petit troupeau. Nous sommes en préparation pour bientôt, heureusement, changer le monde autour de nous. Pour que tous les malheurs soient effacés. Et qu'enfin on établisse un gouvernement juste sous le Christ. Et que les gens puissent apprendre à vivre en paix, en sécurité, en harmonie. Alors, il faut les connaître, ces buts-là, les buts de l'Église, parce qu'on en fait partie. On doit les comprendre, en être conscient, pour en être motivé, fortifié, enthousiasmé. Parce que vous allez voir, c'est fantastique comment Dieu a organisé les choses et qu'il nous donne à nous, qui sommes rien, qui avons rien mérité, la responsabilité puis le bonheur d'en faire partie, en préparation d'un monde merveilleux. Le premier but de l'Église, vous le connaissez très bien pour la plupart d'entre vous qui connaissez l'Église depuis un certain temps, c'est d'annoncer le puissant message de l'Évangile du Christ, le message que lui est venu délivrer. Et ce message-là concerne l'établissement du gouvernement de Dieu très bientôt sur la terre. On voit les signes sont là. Et l'Évangile, c'est un évangile de délivrance de l'humanité. C'est pour ça que c'est un message aussi enthousiasmant. Et le gouvernement de Dieu, comme on voit dans la Bible, c'est un gouvernement qui est structuré, qui a ses lois, qui a son grand roi, qui a une structure. Et on retrouve cette même structure-là dans la petite Église de Dieu actuellement, qui sera la même structure dans le gouvernement de Dieu bientôt. Allez à Matthieu, 28e chapitre. Matthieu, chapitre 28. On va lire les versets 19 à 20, où on voit cette mission-là. Dernier chapitre du livre de Matthieu, versets 19 et 20. Voici ce que le Christ a dit à ses disciples juste avant de retourner au trône de son Père. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et notre rôle, nous, on annonce l'Évangile dans le monde entier, et Dieu appelle quelques personnes dans différentes nations pour former son équipe qui va administrer le monde bientôt. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et on voit à plusieurs autres endroits, en n'ajoutant rien, puis en n'enlevant rien. Ce qu'on sait, comme il faut, exactement, on l'annonce exactement. Ce qu'on ne sait pas, on le dit. On est en attente de comprendre certaines choses encore, c'est normal. Mais on donne exactement ce que la Bible dit comme façon de vivre. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, ce que le Christ lui-même a enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas la fin de l'existence de la terre, mais jusqu'à la fin de cette société méchante qui va disparaître avec la venue du Christ. Et c'est pour ça que le Christ a mentionné dans Matthieu 24, verset 14, pas besoin de vous les reporter, mais Matthieu 24, verset 14, le Christ a encore précisé ceci. Il dit, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle d'un changement total de la société, ce qu'on supplie Dieu d'établir le plus tôt possible à cause de la misère qui augmente dans le monde. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume, du gouvernement de Dieu sera prêchée dans le monde entier, ce que nous sommes en train de faire, ce qui n'était pas possible à d'autres époques qu'à la nôtre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens technologiques de rejoindre l'ensemble de la planète. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et ça, c'est un élément important parce que parfois, les gens arrivent à l'Église puis ils pensent qu'ils sont obligés de convertir les gens autour d'eux. C'est pas ça. L'Église, elle, doit prêcher. Et même si elle prêche, c'est un témoignage. Ensuite, Dieu, parmi ceux qui entendent, choisit qui il attire au Christ. C'est son travail. Ce n'est pas le mien. Mon travail en tant que ministre, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de ce royaume qui vient. Et Dieu ensuite, chez ceux qui ont entendu, attire, met dans le cœur de certaines personnes de vouloir aller plus loin, de vérifier les choses, d'être emballés tout d'un coup par ça et de se mettre en marche. Et quand ils font ça, Dieu les aide à aller plus loin. Alors, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et là, comme je vous dis, on couvre pratiquement essentiellement la terre. Alors, quand ça se sera fait, viendra la fin. Viendra la fin de cette société méchante. Et nous, notre témoignage actuellement va d'abord aux nations israélites, comme ça nous a été commandé. Et parallèlement, bien sûr, aux autres nations du monde. Et c'est fantastique parce que Dieu, à notre époque, appelle des gens de tout peuple, de toute langue, de toute nationalité. C'est logique, parce qu'il prépare une équipe qui va devoir, tout de suite après le retour de Christ, travailler avec l'ensemble des nations du monde, chez les gens qui auront survécu à la Troisième Guerre mondiale. Alors, il faut avoir des gens qui comprennent ces nations-là, qui viennent de là aussi. C'est intéressant de voir que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu logique. Alors, dans ce sens-là, l'Église fait tout ce qu'elle peut pour accomplir la mission que le Christ lui a donnée. On est à la radio, on est à la télévision, maintenant on est sur Internet, maintenant on est sur les médias sociaux, nous imprimons une quantité considérable de littérature que nous donnons, que nous offrons gratuitement à tous ceux qui s'intéressent, parce qu'encore là, on met en pratique le principe biblique qui nous a été donné. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et là encore, c'est un signe qui identifie qui sont les vrais serviteurs de Dieu. Dès qu'une église vous demande de payer pour la soi-disant vérité qu'elle vous offre, ce n'est pas l'église de Dieu. C'est clair? Parce que ça nous est défendu. Faut faire ce que Dieu nous demande. Alors, on est à la télévision, on est sur les médias sociaux, on fait des conférences pour nos abonnés. Et après, les ministres vont visiter les gens qui demandent pour aller plus loin, qui ont des questions. Alors ça, c'est le premier but. Donc, d'annoncer ce merveilleux message qu'il y a un autre monde qui s'en vient, qui est tout proche. Puis même en l'annonçant, puis en priant Dieu pour ça, nous autres, ça nous encourage. Parce qu'on voit que le monde dans lequel on est maintenant, il durera pas longtemps. On en parle à Dieu, puis ça nous ramène ces choses-là, et ça nous met dans ce contexte-là, et dans le beau de ce qui s'en vient. Deuxième but, faire connaître les prophéties du temps de la fin. Deuxième but, faire connaître les prophéties du temps de la fin. Parce qu'il y a des événements qui se développent actuellement, là où on est rendu dans le calendrier de Dieu, il y a des événements qui se développent, qui nous indiquent qu'on est rendu tout proche de grands bouleversements incomparables dans l'histoire qui vont préparer le retour de Christ. Et il nous est clairement dit dans Apocalypse 1, verset 3, pas besoin de vous y reporter, mais dans Apocalypse 1, verset 3, il nous est dit, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Et c'est pour ça que le deuxième rôle de l'Église, c'est de faire connaître les prophéties, pour que ceux qui entendent en soient avertis, parce que Dieu avertit de ce qui vient. Et en même temps que parmi ceux qui entendent, certains se mettent en marche parce que Dieu les appelle. Alors, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ce temps qui est proche-là, c'est le même temps que je mentionnais tantôt dans Matthieu 24, quand il dit « Alors, il viendra la fin » quand cette bonne nouvelle sera répandue en même temps sur l'ensemble de la planète. Ça, ça correspond à la direction ou la directive que Dieu a donnée à son prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Reportez-vous à Ézéchiel, le chapitre 2. Vous allez voir, ça couvre ce deuxième aspect ou deuxième but de l'Église, si vous voulez. Ce qui est fascinant, c'est que Ézéchiel, lui, avait un message à livrer à la maison d'Israël, mais il ne l'a jamais livré lui-même. C'est environ 100 ans, ça, après que la maison d'Israël a été amenée en captivité. Quand le prophète Ézéchiel a reçu ce commandement-là, d'aller annoncer ça à la maison d'Israël était inatteignable pour lui. Donc, il n'a pas livré ce message-là à ce moment-là. Ce message-là, il est pour la maison d'Israël, à notre époque, au temps de la fin. Ézéchiel 2, verset 3. Voici la directive que Dieu a donnée à Ézéchiel. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. » Il y avait un message. « Vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. » Eux et leur père, et ainsi de suite. Et il continue. Regardez le verset 5 un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Pourquoi qu'ils le sauront? C'est qu'ils auront entendu le message d'Ézéchiel. Même s'ils sont d'accord ou pas. Ils le sauront. Ils s'en rappelleront un jour. Quand les choses vont devenir à tel point terribles que la fin sera là. Ils se rappelleront parce que le témoignage aura été donné. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Et il continue à les encourager de la sorte. Et après, si on voit le verset 7, qu'est-ce qui va se produire? Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Même on sait, le Christ nous a averti que nous serions persécutés pour annoncer la vérité, pour avoir dit la vérité. Parce que ce sont des choses dérangeantes. C'est pas des choses faciles qui s'en viennent. Et les gens vont devenir colériques, irrités par rapport à ça. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et endurci. Et après, il dit, je vais vous donner la force pour que vous soyez capables de le faire. Maintenant, voyons cette même mission-là précisée en détail. Plus loin, à Ézéchiel, chapitre 33. C'est le même message, mais avec plus de précision. Ézéchiel, chapitre 33. Lisons à partir du verset 7. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. » Et à l'époque, une sentinelle avait pour rôle de garder la muraille de la ville et d'avertir lorsqu'il y a des dangers qui venaient. « Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité, parce qu'il n'a pas entendu, qu'il n'a pas voulu donner suite, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Voyez-vous la différence ici? Il dit, quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, il dit à son prophète, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité, bien sûr, mais à toi, la sentinelle, qui avait la responsabilité d'annoncer ces choses-là, je redemanderai son sang. Alors, tout ça se tient. Verset 10, toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Le moment vient où il n'y aura plus de vie possible, même au bout, là. Très difficilement. Verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Dieu n'est pas un Dieu vengeur qui essaie d'attraper les gens parce qu'ils ont mal agi. Dieu veut qu'on change pour qu'on soit bien. Ce que désire l'Éternel, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? C'est pour ça que je mentionnais tantôt que notre message à nous, au temps de la fin, il est d'abord adressé à la maison d'Israël. Bien sûr, les autres nations en reçoivent aussi témoignage, mais la cible première, c'est la maison d'Israël. Des nations israélites modernes. Il va se faire un autre travail en ce qui concerne l'annonce de l'Évangile très bientôt. Allez à Apocalypse chapitre 11. Dieu a prévu dans son plan que les nations du monde allaient être averties de façon éclatante, à la toute fin, durant les trois dernières années et demie avant le retour de Christ, durant la période de la grande détresse. Dieu a prévu de désigner deux êtres humains, deux hommes qui vont s'installer à Jérusalem et qui vont annoncer l'Évangile, le même Évangile, mais avec un éclat jamais vu auparavant. Alors, voyons de quoi il s'agit. Et leur prédication à eux va s'adresser à la terre entière, mais de façon foudroyante. Apocalypse 11 et le verset 3. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours, les trois années et demie de la grande détresse. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, personne ne pourra les tuer jusqu'à un moment précis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. » Alors, imaginez-vous deux êtres humains à Jérusalem qui annoncent qu'il y a un autre monde qui s'en vient, qui décrivent, même avant que ça arrive, certains événements qui sont en train de se dérouler. Les gens les voient arriver, ces événements-là, ils entendent ces gens-là, et si quelqu'un s'en prend à eux, ce sont les gens qui les attaquent qui seront détruits de façon éclatante. On parle d'un témoignage puissant, là, très puissant. Et regardez verset 6, qu'est-ce qui est mentionné ici? Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, c'est-à-dire d'empêcher la pluie de tomber, comme Dieu a déjà fait avec un de ses grands prophètes. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Imaginez la puissance que Dieu va donner à ces hommes-là et la force de leur message, parce qu'ils sont soutenus directement par le Tout-Puissant. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est là qu'ils seront mis à mort, selon le plan de Dieu. Ce ne sera pas une surprise. Ça devrait être très, très spécial pour ces deux hommes-là, parce qu'ils vont connaître d'avance leur fin. Mais ils connaissent le travail qu'ils ont à faire. Ils savent que Dieu sera avec eux. Et ils savent que l'instant d'après, ils seront ramenés à la vie, comme c'est déjà marqué aussi ici. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Ben oui, ils vont être à Jérusalem. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis au sépulcre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont être tellement contents qu'ils soient morts, enfin débarrassés de ces deux troubles-fêtes qui ont fait tellement d'inquiétude au monde. Et, à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres. Imaginez la fête, là. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Alors, ça, c'est le deuxième but de l'Église. D'annoncer les prophéties du temps de la fin par les deux témoins, ce qui est en train de se préparer. Et moi, de temps en temps, de ce temps-là, dans ma prière, je demande à Dieu de préparer ces deux hommes-là. On ne sait pas de qui il s'agit, mais de préparer ces deux hommes-là et de préparer leur installation à Jérusalem pour que les choses aillent dans le bon ordre. Troisième but de l'Église, c'est de nourrir le petit troupeau dont nous faisons partie. L'Église a pour but de nous aider à développer le caractère de Dieu et la stature de Christ, qu'on ressemble de plus en plus au roi des rois. Parce qu'on l'appelle le roi des rois concernant le monde à venir, parce que lui sera en charge de d'autres rois, vous et moi, si nous sommes fidèles. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi des rois. Formidable. Alors, on est en préparation, en fonction des responsabilités que nous aurons. Et l'Église, pour ça, nous prépare chaque sabbat par la prédication, comme ça a été mentionné dans la prière d'ouverture, que Dieu inspire ses serviteurs pour ce que nous avons besoin, pour là où nous sommes rendus dans le temps. Alors, l'Église fournit de ce côté-là l'aide, la nourriture aux petits troupeaux qui se réunissent chaque semaine pour les assemblées de sabbat. Et les ministres restent en contact avec les membres pour répondre à leurs besoins, pour les consoler, pour les encourager, pour répondre à leurs questions, pour les conseiller sur les grandes décisions parfois qu'ils ont à prendre. Et parfois, on a besoin de corriger aussi les gens de l'Église. Ça m'est arrivé de le faire. C'est jamais intéressant, mais il faut le faire. Et quand on le fait, c'est parce qu'on aime la personne et qu'on ne veut pas que la personne meure, comme Dieu disait tantôt. Dieu disait tantôt, je veux pas que le méchant meure, je veux qu'il vive et qu'il change. Et quand on voit quelqu'un, nous, qui est en train de s'en aller dans la mauvaise direction, au risque de perdre sa vie éternelle et son entrée dans le royaume, on n'a pas le choix, en tant que ministre. Il faut aller voir la personne, s'asseoir avec elle, dire, écoutez, si vous continuez sur le chemin que vous êtes parti, là, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de perdre votre salut. Vous êtes en train de perdre votre royaume. Et parfois, on doit les secouer pour justement les aider par amour. On aimerait mieux aller les voir puis qu'il n'y ait rien de ça à dire, parce que c'est pas intéressant à dire, mais c'est majeur à être dit, parce que justement, on doit prendre soin des gens de ce côté-là. Je l'ai fait, si je devrais le faire encore, je vais le faire encore. C'est le rôle du ministère. Regardez 2 Timothée. C'est le rôle des ministres de Dieu. Encourager, enseigner, corriger à l'occasion, et je dois vous dire honnêtement que ça m'a été fait aussi, par des ministres supérieurs à moi, qui ont dû me corriger à l'occasion. Vous direz pourquoi? Mais ça a été la même chose et ça m'a rendu service. Je me rappelle d'une situation que j'avais à changer, entre autres, que je ne voyais pas. Parfois, on pense pas que ce qu'on fait est mal ou est en train de nous amener en dehors de l'Église, mais ça peut être le cas. Mais quand un ministre vient nous parler puis nous montre cette réalité-là, ce qu'on a à faire, c'est de dire merci à Dieu de nous l'avoir envoyé. Parce que ça nous ramène sur le bon chemin pour que on puisse ne pas perdre la vie éternelle, mais avoir le salut que Dieu nous promet. 2 Timothée, chapitre 4, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 4, et nous allons lire les versets 2 à 4. Ici, Paul dit à Timothée, un ministre, quoi faire? Prêche la parole, c'est ce que nous devons faire. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Des fois, c'est dans des situations où il y a de l'hostilité. On a déjà eu dans l'Église de l'hostilité, de gens qui, en fait, n'appartenaient pas vraiment à l'Église, mais qui créaient des problèmes d'hostilité. Mais à ce moment-là, le ministère devait continuer à servir toute l'Église et à protéger les membres qui étaient fidèles et à continuer d'enseigner vraiment ce que la Bible dit. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et ce temps-là, il est déjà sur nous maintenant, parce que ce qui est chrétien est maintenant rejeté complètement. Ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, vers des choses douces à entendre, mais qui ne sont pas les paroles de Dieu. Ça change tout. Alors voyez-vous, dans ce troisième but de l'Église, nourrir le troupeau, Dieu a prévu que les ministres auraient un rôle précis à jouer. C'est notre responsabilité. On devra en rendre compte au grand Dieu, de prendre soin de ces petites brebis, là. Elles sont précieuses à ses yeux, chacune. Alors, nous, on doit développer ce même attachement-là envers les petites brebis de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que le Christ avait dit à Pierre, hein? Il avait dit à Pierre, « Paie mes brebis », c'est-à-dire « nourris mes brebis ». Alors, c'est la même chose pour tout le ministère. Tout le ministère doit agir de cette façon-là. Alors, pour accomplir ce troisième but, Jésus a doté son Église d'une organisation structurée. Dieu est un Dieu d'ordre, hein? C'est le fun. Dieu est vraiment un Dieu d'ordre et c'est encourageant. Il laisse rien au hasard, mais tout est bien organisé. Allez dans Éphésiens 4. On voit ici la structure de l'Église qui est en même temps un reflet de la structure du monde de demain, quand le Christ sera revenu. Éphésiens 4, verset 11. Regardez ce que Paul mentionne ici en parlant du Christ. Il a donné, le Christ, les uns comme apôtres. Il y avait des apôtres au début de l'Église, il n'y en a pas à notre époque. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et il y a eu des prophètes dans l'histoire qui ont annoncé des événements précis. À l'heure actuelle, il n'y a pas de prophètes dans ce sens-là dans l'Église, mais il y a eu des prophètes, ça a été établi. Et les autres comme évangélistes. Actuellement, dans l'Église du Dieu vivant, nous avons 5 évangélistes, et nous prions de plus en plus pour eux, parce que eux sont sur la ligne de front. pour ce qui est d'annoncer l'Évangile. Alors, ils ont besoin de notre support. C'est là qu'on a un rôle à jouer aussi. De demander à Dieu de les bénir, d'être avec eux, d'inspirer leurs décisions, leur lecture des situations, leur lecture des gens autour. Et que Dieu leur révèle aussi, selon sa promesse, les choses qui viennent. Pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions pour diriger l'Église. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Pour que nous puissions développer le caractère de Christ et nous préparer à nos responsabilités dans le monde de demain, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Vous ne l'aurez pas personne à cette époque, ni moi non plus, mais Dieu va nous donner cette stature parfaite le jour du retour de Christ, si nous sommes encore en train de travailler à développer son caractère puis à vaincre nos faiblesses. Alors ça, c'était le troisième but dont je voulais vous parler. Le quatrième but, nous aider à devenir imitateurs du Christ. Et ça, vous allez voir, ça a un rôle particulier. L'Église a comme but de nous aider à devenir des imitateurs de Christ par notre façon de vivre, en vivant selon les enseignements du Christ, notre façon de parler, notre façon d'agir, notre façon de penser, notre façon d'être, dans tout ce qu'on fait. On doit être entier, appartenir à Dieu totalement dans ce sens-là, devenir imitateur du Christ. C'est ce que Paul disait. Vous irez voir dans 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1, qu'est-ce que Paul déclarait? « Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur du Christ. » Voyez-vous, il y a passage du bâton d'une génération à l'autre, ou d'un groupe de l'Église à un autre, des ministres aux membres et des membres aux membres nouveaux. C'est pour ça que l'exemple que vous donnez, vous autres, dans l'Église, quand des membres nouveaux viennent, c'est tellement important. Parce que à la lecture de ce qu'ils voient, dans votre accueil, dans votre chaleur, dans votre façon de parler de Dieu, des choses de Dieu, de son plan, pour eux, c'est la lecture de l'Évangile. Vous êtes, dans certains cas, le premier évangile, ou presque, que les gens vont voir comme être vivant. Ils l'ont lu un peu dans leur Bible, mais là, ils voient en action l'Évangile dans la vie de certains appelés. C'est très puissant, ça. Regardez Matthieu 5, verset 13 à 16. Matthieu 5, verset 13 à 16. Et c'est pour ça que le rôle de chacun dans l'Église, qui qu'il soit, est tellement important. Matthieu 5, verset 13 à 16. Regardez ce que le Christ dit en parlant des appelés, de ceux qui font partie du petit troupeau actuellement. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Faut rester le sel de la terre, avec la même saveur de vivre selon les lois de Dieu. Il dit, s'il perd sa saveur, il ne sert plus à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, « Vous êtes la lumière du monde, par votre façon de vivre, par votre façon d'être, par votre façon de rendre service, pas par essayer de convertir les autres, c'est pas votre rôle. Si vous essayez de faire ça, vous vous mettez en travers entre Dieu et ceux que Dieu pourrait appeler, et vous pouvez créer plus de problèmes que d'aider. L'intention peut être bonne, mais ce n'est pas notre rôle. » C'est bien clair dans les textes, le Christ a dit à quelques reprises, « Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Alors, c'est pas moi à jouer le rôle du Père, ni vous, pour attirer quelqu'un. Mais par votre exemple, quelqu'un peut être porté à poser des questions. Là, à ce moment-là, vous vous répondez, sans donner toute la Bible, mais avec discernement à la question. Et s'il y a d'autres questions, ça va venir plus tard. Mais vous ne profitez pas de l'occasion pour essayer de lui donner tout ce que vous savez en pensant, il a posé une question, là, je vais le convertir. Non, non, vous retombez dans le même panneau que je vous disais tantôt qu'il ne faut pas faire. Vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit vous êtes la trompette du monde. Vous êtes la lumière du monde. La lumière, ça ne fait pas de bruit. Mais c'est important, ça change tout. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et là, il continue l'exemple de cette façon-là. Très intéressant. Alors, voyez-vous, faut que nos vies personnelles deviennent de plus en plus des exemples réels de ce qu'est la vie chrétienne. Et simplement en étant un exemple, même silencieux, de la façon de vivre chrétienne, On annonce l'Évangile. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à penser à ça. Mais par votre façon de vivre selon les lois de Dieu, vous annoncez l'Évangile, vous êtes l'Évangile. Ceux qui le voient, voient l'Évangile en action. Et le temps voulu, Dieu se servira de ça, selon son plan et sa volonté, pour aider ces gens-là. C'est fantastique comment Dieu travaille. Dieu est puissant, puis il est nuancé, il est ordonné. Alors, comprenez-vous qu'il faut être chrétien dans tout ce qu'on fait. Il faut être zélé au travail. Ceux qui ont des emplois, il faut être zélé à l'emploi. Respecter nos employeurs. Donner une bonne journée de travail. Être honnête. Ça, c'est être chrétien en milieu de travail. Être chrétien avec notre conjoint. Avoir de la douceur, essayer de comprendre. Aider l'autre dans toute la mesure du possible. Avec nos enfants. L'exemple qu'on donne dans nos familles, c'est aussi l'Évangile en action. Vivre dans une attitude de donner. Ça aussi, c'est être l'Évangile. On peut donner un coup de main à un voisin, sans lui prêcher rien, mais donner un coup de main, l'encourager, venir à ses besoins s'il est malade, il a besoin de transport ou tout ça. Mais c'est l'Évangile en action, ça. C'est la lumière, là. La lumière du monde dont il parlait tantôt. Donner, servir les autres. Ça fait partie de nos responsabilités personnelles dans l'œuvre. Et à travers ça, on développe la maîtrise de soi. Maîtriser nos réactions. Même si des gens autour de nous sont moins... on est moins attirés par certains, on les aime quand même. Certaines personnes de courant passent facilement, d'autres moins. Mais Dieu dit, aimez tout le monde, rendez service à tout le monde autant que possible. Développer la sagesse, développer le jugement dans notre façon de répondre aux gens. Demander de la foi pour être capable d'agir en conséquence, le courage. Montrer par notre conduite que pour nous, Dieu passe en premier. Montrer par notre conduite que Dieu passe en premier. Pas par nos paroles, là. Par notre conduite que Dieu passe en premier. Je vais au sabbat chaque semaine. C'est sûr que les gens trouvent bizarre que je parte chaque samedi avec un costume le mieux possible ou la plus belle robe que je peux avoir ou tout ça parce que je m'en vais à l'Assemblée de Dieu. Je leur dis pas, mais ils le voient. Et parfois, ils vont me demander dans certains cas, comment ça se fait que chaque samedi, je vous vois partir tout habillé comme pour aller aux noces? En réalité, je pourrais dire, oui, je me prépare pour les noces, mais c'est pas complètement faux. Mais non, je peux simplement leur dire à ce moment-là, écoutez, moi, j'observe le sabbat et on a une réunion à l'église le jour du sabbat. Point. Pas d'autre chose. Je leur ai donné la réponse honnête, juste, tout simplement. J'ai ma réunion chaque sabbat. Alors, donc, montrer par notre conduite que pour nous, Dieu vient en premier, quel que soit le prix à payer. Et parfois, il y a un prix à payer pour que Dieu soit en premier dans nos vies. Ne pas faire de compromis, sans compromis aucun. Et parfois, quand on met Dieu en premier, on a tous vécu l'expérience, puis on le vivra encore certainement, il y a un prix à payer pour ça. Et parfois, il y a de la souffrance qui vient avec ça. Pour obéir à Dieu, pour ne pas faire de compromis avec sa loi. Il y a un prix à payer et il y a des choses difficiles. Certains ont dû changer de travail. Ça m'est arrivé personnellement. J'avais une carrière que je trouvais extrêmement intéressante, que j'aimais beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai vu que c'était en conflit avec les lois de Dieu. Alors j'ai fermé la porte et je suis parti. J'ai changé. Mais en partant, ça a été extrêmement difficile parce que là, je perdais tout et je tombais absolument devant rien. Et ça a été pénible, ça a été difficile, mais Dieu a béni. Mais j'avais un choix à faire. Mais si j'avais pas fait ce choix-là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Aussi simple que ça. Parce que j'aurais choisi le contraire de ce que Dieu me demandait de faire. C'est pas facile, mais c'est merveilleux. Disons, c'est merveilleusement difficile. Parce que Dieu nous attend au coin de la rue avec des bénédictions encore plus grandes. C'est pas une question d'argent, c'est une question de découvrir le but de la vie et d'aller de l'avant vers quelque chose de formidable. Ça change absolument tout. C'est arrivé à plusieurs, c'est pas arrivé juste à moi, là. Pour certains, c'était à cause du sabbat. Certains ont abandonné ou perdu un travail pour obéir à Dieu, parce que le sabbat venait en premier. Il ne faisait pas de compromis. Il y en a ici parmi vous, je sais, mais c'est formidable. C'est tout à votre honneur, et ça, c'est écrit dans le grand livre de notre Père. Ce choix difficile que vous avez fait. Dieu sait que vous êtes capable de faire donc ce genre de choix-là pour ne pas lui désobéir, par fidélité à votre engagement. C'est formidable. Dieu voit où est notre cœur avec ça. Cinquième but de l'Église, apprendre à développer l'attitude d'être serviteur. On est appelé à servir. Maintenant, dans ce qu'on peut, et dans le monde à venir, ce sera notre travail plein temps. Servir Dieu d'abord, servir le Christ, notre patron immédiat, et après ça, servir les autres, à qui nous devrons venir en aide. On est appelé à devenir des dirigeants serviteurs. Moi, je me rappelle, j'ai resté surpris quand M. Meredith s'est mis à revenir avec ce thème-là. Et je me rappelle pas que quelqu'un ait autant développé que lui le thème de notre responsabilité de devenir des dirigeants serviteurs. Et ça, c'est fascinant comme approche. Parce qu'on voit que devenir des dirigeants dans le monde de demain, c'est pas pour notre gloriole, là. C'est justement pour être capable de mieux aider ces gens-là qui ont absolument besoin. Et il y a un bonheur à aider, à donner. Et nous serons dans une position où nous pourrons donner ce que les gens attendent, c'est-à-dire ce que les gens ont vraiment besoin. Pas ce qu'ils désirent, mais ce qu'ils ont besoin. On pourra le donner avec sagesse, discernement, et il y aura un bonheur sans borne à faire ça. Et c'est maintenant qu'on doit apprendre à servir. Et en faisant ça, on apprend à devenir des dirigeants serviteurs. Et ça, quel que soit notre statut dans le monde actuellement, il y a des gens dans l'Église qui sont très pauvres. Il y a des gens dans l'Église qui sont plus fortunés. Il y a des gens dans l'Église qui sont en bonne santé. D'autres qui sont malades. D'autres qui sont très malades. Ça n'a pas en soi d'importance comme tel. Dieu se sert de tout ça pour préparer son équipe. Pour qu'on soit en mesure de comprendre les autres dans le monde de demain. Certains d'entre nous passent par des épreuves très difficiles, mais on va devenir aguerris pour comprendre ceux qui passent par des épreuves difficiles et qui vont passer par des épreuves difficiles. Alors, quel que soit notre degré d'éducation, qu'on soit allé à l'université ou non, qu'on ait fait l'école secondaire ou non, qu'on n'ait même pas fait de primaire, j'ai connu dans l'Église quelques personnes qui ne savaient pas lire, mais qui étaient des gens de cœur avec Dieu et qui faisaient les bons choix et qui se sont endormis dans la foi et qui seront là à la résurrection. C'est pas une question de degré de connaissance ou de scolarité ou tout ça. C'est un degré d'obéissance à Dieu, d'appartenir à Dieu. Ça change tout. Absolument. Alors, on doit utiliser tout ce que Dieu nous donne maintenant là, dans la vie qu'on a à vivre là, pour développer une attitude d'humilité et de service. De considérer les autres autour de nous, qui que ce soit, comme plus important que nous. Ça, là, c'est un gros concept aussi, là. Considérer tous les autres comme plus importants que nous. Parce que, humainement parlant, on aime être important. Avant que Dieu nous appelle, j'imagine que c'était la même chose pour vous. Moi, j'aimais ça être important. Et puis, mais après ça, Dieu nous montre que non, c'est pas ça, là. Il faut que vous deveniez les serviteurs des autres et que vous considériez les autres plus importants que vous. Et nous-mêmes, nous n'avons aucune importance de nous-mêmes. On a simplement, comment je dirais, l'importance heureuse de quelqu'un qui reçoit l'amour compatissant et miséricordieux d'un Dieu tout-puissant qui nous a donné la vie. C'est ça. Autrement, je n'ai pas d'importance, aucune importance. Et ce sera comme ça dans le monde à venir. Toute l'équipe de Dieu n'aura en soi aucune importance pour sa propre gloire. Mais on sera une équipe formidable, par exemple, pour encourager, consoler, guérir, aider de toutes sortes de façons pour rebâtir le monde sous des bases solides. Servir humblement, considérant les autres comme plus importants que soi. Regardez Luc 22. Un exemple spécial ici. Là, vous allez voir des gens qui étaient comme nous étions avant que Dieu nous appelle. Puis il peut nous rester encore parfois certains restes de cette attitude-là. Regardez Luc 22, verset 24. Luc 22, verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Bon. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Yes! Là, on l'a. C'est qui le plus grand parmi nous autres? Ça, c'était les disciples de Christ, c'était les apôtres, les premiers appelés. Mais rappelez-vous, c'était des êtres humains, comme vous et moi sommes des êtres humains. Là, il y avait une contestation, une grosse discussion, c'est qui le plus important parmi nous? Mais là, je veux vous emmener à voir d'autres choses par rapport à ça. Ça m'a frappé quand j'ai regardé le contexte ici. Vous savez quand est-ce que cette discussion-là est arrivée? Le soir de la Pâque. Le soir de la dernière Pâque du Christ. Il venait de leur dire qu'il allait mourir dans quelques heures. Et leur humanité a tellement pris le dessus que dans ce contexte-là, ils ont oublié le Christ complètement. Ils ont pensé au petit moi qui voulait être le plus important. Et là, ils ont commencé à discuter, savoir qui allait être le plus important d'entre eux autres. C'était quelques heures avant que leur Créateur et leur Sauveur donnent sa vie pour chacun d'eux. Il a fallu qu'ils soient patients. Pas à peu près. Il était venu pour mourir pour eux, et là, eux, comme s'ils rejetaient ce qu'ils venaient de leur dire, la dernière part qu'ils venaient de vivre avec eux, pour dire, on va être qui, nous autres, quelle poche qu'on va avoir? Incroyable. Mais ça, c'est notre humanité. C'est avec ça qu'on a à se battre. Mais, Dieu est plus puissant que nous, et Dieu est plus puissant que toutes nos faiblesses. Et il peut nous aider à changer complètement. Et c'est pour ça qu'il dit à un moment donné, parce que lui, il voit le résultat final. Là. Avec son aide, il va nous aider à arriver. C'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse 5, verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. » Pour lui, c'est comme si c'était fait. Si nous autres, on est patients, lui, pour lui, c'est fait. Si on est patient et si on est persévérant, pour lui, le résultat est garanti, parce que c'est lui qui te garantit le résultat. Moi, ce que j'ai à faire, c'est d'être persévérant, de ne pas me décourager, de tenir bon, de lui demander son aide. Sixième but de l'Église, restaurer dans l'Église de Dieu le christianisme apostolique. Restaurer dans l'Église de Dieu le christianisme apostolique. Parce qu'à l'époque des apôtres originaux, après qu'ils ont été changés, après qu'ils ont eu reçu le Saint-Esprit et que là, ils ont été vraiment solidifiés dans la vérité, ils nous donnent un très bel exemple de solidité, de base solide. Et c'est là-dessus que j'attire votre attention, c'est que restaurer dans l'Église de Dieu le christianisme apostolique, c'est de retrouver la solidité des bases des apôtres originaux. C'est ça. En tant que membre d'Église, ça veut dire qu'on doit se nourrir le plus possible. Étudier chaque jour notre Bible, la connaître, l'approfondir, intégrer ce que Dieu nous montre, intégrer la vérité et les doctrines bibliques de l'Église qui ont été enseignées par le Christ. Le Christ a dit tantôt, enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai dit. Mais nous, il faut le savoir ce qu'il a enseigné. Et il faut en vivre maintenant pour être capable de l'enseigner plus tard dans le monde de demain. Il faut avoir des fondements solides. Et pour avoir des fondements solides, c'est très, très simple. C'est comme on a eu dans un sermon récemment sur la foi. Pour avoir une foi solide, pour avoir des fondements solides, il faut obéir à Dieu. C'est simple, 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 simple. Obéir à Dieu de tout notre cœur avec son aide et aller chercher la nourriture qu'on a besoin. C'est pour ça qu'il est marqué dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc de la Bible. C'est pour ça que M. Weston dit qu'on doit s'en nourrir chaque jour. M. Appartient nous disait la même chose. M. Meredith nous disait la même chose. M. Armstrong nous disait la même chose. Pourquoi? Parce que la recette n'a jamais changé. Si je fais ça, je reste sur des bases solides. Si je me nourris chaque jour et si je mets en pratique ces choses-là, mes fondements deviennent solides. Absolument. Et je dirais, surtout en ces temps où nous sommes rendus. Parce qu'il y a tellement de dangers autour de tout ça. Et il ne faut pas ralentir pour se décourager. Fondement solide. Je relisais avant de venir ce matin, je relisais la maison là, bâtie sur le roc. C'est ça. Il faut que nos fondements soient solides. Et il dit très bien là-dedans, si vous êtes bâti sur le roc, si votre maison est bâtie sur le roc, il y aura des tempêtes qui vont venir. Mais elle va tenir. Pourquoi? Parce que vous êtes basé sur un fondement solide. Vous êtes ancrés sur le Christ, sur les vérités de Dieu. Ça change tout. Maison fondée sur le roc. Surtout à notre époque. Et surtout à notre époque où il y a tellement de faux prophètes d'un côté et où il y a des menaces de rejet et de persécution pour les vrais serviteurs de Dieu. Mais si on est sur le fondement solide, la tempête a beau être plus grosse, si le fondement est absolument solide, ça va résister. Absolument. Les vérités bibliques n'ont jamais changé. Dieu ne change jamais et la vérité biblique ne change jamais non plus. Ni ses doctrines de base. Ça a été enseigné par le Christ. Nous, on doit en vivre et on doit se préparer à les enseigner. Septième but de l'Église de Dieu. Le dernier. Développer dans l'Église, c'est-à-dire dans la famille de Dieu, une atmosphère de foi radieuse. Et c'est intéressant de voir les échanges qu'on a à la Sainte Convocation. Et c'est pour ça que Dieu a commandé, dans son commandement, d'observer le sabbat, qui a commandé aussi une Sainte Assemblée, pour qu'on puisse, un, être enseigné, mais deux, être encouragés les uns par les autres. Quand il y a plusieurs qui sont ensemble, qui ont le même esprit, qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la foi, les échanges qui se passent nourrissent les autres. Ce que j'apprends de vous, vos commentaires, les échanges qu'on a, ça me fortifie. Et c'est la même chose dans l'autre sens. C'est la même chose pour tout le monde. Et quand quelqu'un a besoin de prière ou quoi que ce soit, on en parle ensemble à l'Assemblée de Sabbat et on parle à Dieu durant la semaine pour ces personnes-là. Et tout ça développe dans l'Église une atmosphère de foi. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11 et le verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? Hébreux 11, verset 6. C'est un principe important par rapport à ce que je vous dis ici. Hébreux, chapitre 11. C'est bien sûr le chapitre de la foi, mais regardez le verset 6. Il dit, sans la foi, sans le fait de croire en ce Dieu invisible qui est tout puissant, mais dont on découvre les interventions si on marche avec lui, qu'on lui demande de nous aider à faire sa volonté, il se manifeste de toutes sortes de façons et ça, ça nous encourage et ça augmente la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écoutez, si je ne crois pas que Dieu existe, je ne peux pas aller plus loin, là. Il dit, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, même s'il ne le voit pas. Et c'est là que vient la force de cette foi qui n'est pas aveugle, mais qui est basée sur la parole et qui est basée sur les expériences qu'on a faites et qu'on fait avec ce Dieu invisible, mais tout puissant, qui est agissant. Faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui bénit, qui répond, celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Dans la Louis II, c'est pas marqué diligemment, mais si vous allez dans la King James, c'est marqué diligemment. Alors, si on cherche Dieu de tout cœur, autrement dit. Ça, on le voit à plusieurs autres endroits dans la Bible quand il dit « Cherchez Dieu de tout votre cœur ». Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Toujours le même principe, je reviens à ça. La Bible ne change jamais. Les principes de Dieu sont toujours les mêmes. Les lois de Dieu sont toujours les mêmes. La façon de s'approcher de Dieu et de le découvrir et de l'apprécier, c'est de marcher dans ses voies, de s'attacher à lui et de se débarrasser de tout ce qui peut être une entrave à notre relation avec Dieu, ou nous amener à faire des compromis, ou nous faire douter de Dieu. Rester sur un chemin solide, fondé sur le roc. Parce que on vit dans une époque qui est peut-être sans doute la plus accaparante de l'histoire de l'humanité. On est bombardé de partout, chaque jour, de toutes sortes de choses qui peuvent accaparer notre esprit, attirer notre attention, nous faire désirer des choses qu'on n'a même pas besoin d'avoir, nous faire convoiter, toutes ces choses-là. À un moment donné, il faut faire le ménage là-dedans pour garder nos objectifs. On peut faire une vie simple, et je devrais dire, on doit faire une vie simplifiée pour rester attaché à Dieu, pour ne pas embarquer dans toutes ces situations, tous ces jeux qui peuvent satisfaire la convoitise humaine, d'acheter ci, d'acheter ça, d'avoir ci, d'avoir ça, de faire ci, de faire ça. La chose principale, c'est de faire ce qu'il faut pour arriver au royaume. C'est ça. Mais si je me laisse digérer, envahir par toutes sortes d'autres choses qui peuvent être intéressantes, ils sont pas nécessairement mauvaises en soi, mais si ça me neutralise d'avancer vers Dieu ou de continuer à être chaleureux dans ce que j'ai à faire, puis d'avancer spirituellement, ben ça devient un danger, ça devient un risque. C'est l'époque peut-être la plus accaparante de l'histoire dans ce sens-là, la plus matérialiste aussi. Avez-vous remarqué comment ce serait facile d'aller acheter plein de choses puis de se soi-disant rendre la vie plus agréable? Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On voit ce que ça donne là, que des gens se soient endettés au maximum et soient pris dans la situation où ils sont pris maintenant. Alors, on est dans une époque maintenant où il faut simplifier notre vie, réduire les besoins. Notre principal besoin, c'est d'être proche de Dieu. Dieu va s'occuper du reste. Cherchez l'Éternel et l'Éternel va s'approcher de vous. On est bombardé chaque jour par toutes sortes de choses. Et cette constante pression-là, elle est agressante. Puis elle risque de détruire notre foi si on ne fait pas attention. Et si on ne fait pas un choix, si on ne fait pas un certain ménage dans ce qu'on a à faire. Le Christ, d'ailleurs, nous a fait une mise en garde là-dessus, pour nous dire qu'est-ce qui va se passer juste avant son retour. Allez à Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. C'est pas pour rien que le Christ nous a avertis de ces choses-là. Lui, il sait ce qui vient. Il sait le contexte de ce qui approche. Et il connaît ce qu'on doit développer comme force de caractère avant d'arriver là, pour être capable de passer à travers. Regardez, la mise en garde du Christ pour nous, de ce qui va se passer juste avant son retour. Luc 18 et le verset 8. Je vous le dis. Je vais vous donner le contexte parce que le Christ donne une parabole ici et qui l'amène à parler du royaume. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, vous et moi, les appelés, qui ont été choisis par le Christ pour faire partie de son Église? Être un élu, c'est être choisi par le Christ pour faire partie parmi ceux que le Père a appelés pour faire partie de son Église. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Pourquoi on crie à lui de plus en plus jour et nuit? Parce qu'on voit les gens souffrir de plus en plus. Et si vous faites ça, vous êtes parmi ceux qui sont comptés comme les justes, qui sont proches de Dieu, qui le supplient de mettre un terme à ce qu'on voit autour comme souffrance. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais regardez la dernière phrase ici. C'est là-dessus que je vais attirer votre attention. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ça, c'est une question qui nous frappe en plein front comme un coup de masse les premières fois qu'on lit ça, puis on a peur. Est-ce que je vais avoir assez de foi? Est-ce que j'ai assez de foi? C'est possible de le vérifier. C'est possible de le vérifier et ça nous encourage. Mais si le Christ prend la peine de mentionner ça, c'est parce que il y a des risques. Il y a des risques qu'on n'ait pas assez de foi. Mais si on est persévérant à obéir à Dieu, je reviens à ça, si on est persévérant à obéir à Dieu, ça nous mène vers le succès, béni par Dieu. Regardez comment cette situation est décrite dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Alors, oui, il y a des risques. Il a posé la question, mais il y a des gens qui auront assez de foi, qui vont réussir, qui vont passer à travers avec l'aide de Dieu. C'est ceux qui vont persévérer à obéir, même s'ils ne sont pas parfaits, qui auront établi les bonnes priorités, qui auront fait le ménage dans leur vie pour pas garder des choses qui les éloignent de Dieu, ou qui sont des compromis avec sa loi, ou qui sont des choses, même si elles ne sont pas contraires à sa loi, qui sont des choses qui diminuent leur attitude d'appartenir à Dieu totalement. Regardez ici donc, Apocalypse 3, verset 8. « Je connais tes œuvres. » J'arrête ici. « Je connais tes œuvres parce que le Dieu qu'on sert sait exactement tout ce qui se passe en détail dans votre vie 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Jamais il n'a les yeux ailleurs. » Dieu, on voit ça dans l'Ancien Testament, Dieu a les yeux sur ceux qui lui appartiennent, sur les justes, sur ceux qui pratiquent la justice. C'est pour ça qu'il commence en disant ces choses-là ici. Il dit, je connais tes œuvres. Pourquoi je connais tes œuvres? Parce que tu es tellement précieux pour moi, toi qui es appelé, que je te suis à l'instant même, chaque jour de ta vie, chaque heure, chaque instant de ta vie. Et je suis toujours prêt à t'aider. Et je vais le faire. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Je pourrais mettre mon nom. On est complètement impuissant. Parce que tu as peu de puissance. Mais que tu as gardé ma parole. Que je l'ai lue. Que je l'ai chérie. Que j'ai travaillé à la mettre en pratique. À essayer de la comprendre mieux. Et que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Donc, que tu as reconnu mon autorité. Que tu as tenu à continuer à être mon serviteur et à apprendre ce que tu dois apprendre. Que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors, voyez-vous, ici, il parle de ceux, au temps de la fin, qui gardent Dieu comme leur souverain, qui continuent à faire l'œuvre, parce que on a été appelé pour accomplir une œuvre. Je l'ai décrit dans les 7 buts que j'ai mentionnés tantôt. Et on a à chacune de ces étapes-là un rôle à jouer en tant que membre. Et regardez le verset 11, un peu plus loin, du même chapitre 3 d'Apocalypse. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. » Et encore là, s'il dit « Retiens ce que tu as, ce que tu as appris, ce que tu sais être la vérité, ce que tu sais devoir mettre en pratique, retiens ça. » S'il dit « Retiens-le », c'est parce qu'il y a des risques qu'on le perde. Sans ça, il dirait simplement, vous êtes chanceux, vous le savez, vous allez arriver, vous allez réussir. Non, non, il dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, pour ne pas manquer au dernier instant. Il dit, si vous êtes fidèle avec ça, moi, je vais m'assurer que vous arrivez au bout. Alors, bien sûr, il faut demander la foi. Et la foi, c'est un des fruits du Saint-Esprit. On demande chaque jour à Dieu davantage de son Saint-Esprit. On demande à Dieu de nous aider à être conscients des buts dont je viens de vous parler aujourd'hui et de s'appliquer à faire son œuvre. Et regardez un dernier verset ici dans Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Et je conclue mon message là-dessus, qui résume de façon encourageante. Apocalypse 22 et le verset 12. « Voici, je viens bientôt. » Et nous savons, par ce qui se déroule sur la scène mondiale, que c'est de plus en plus proche. Il dit, voici, je viens bientôt, c'est le Christ qui parle. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Le Christ a hâte de donner la vie éternelle à ses petits frères et ses petites sœurs, et il a hâte de nous donner les récompenses qui sont en réserve pour nous, les postes qui nous sont réservés. Voilà le Dieu que nous servons. Et voilà les buts, quelques-uns des buts principaux de l'Église de Dieu.